fait plaisir qu'on se fasse une petite balade en forêt tous les deux. Ben, mais pourquoi que tu prends le poste avec toi ?
On va quand même pas louper l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Il y a des rendez-vous qui ne ressemblent pas à des dates sur un agenda, des rendez-vous qu'on prépare en se demandant qu'est-ce qu'on veut vraiment partager, qu'est-ce qu'on espère faire germer. Peut-être qu'on rêve juste d'un endroit où l'on peut se souvenir qu'on est vivant, qu'on respire le même air, qu'on marche sur la même terre. Un endroit où la convivialité devient un langage commun, un peu plus vaste que les slogans et les discours. La fête de la Terre, c'est ce moment où l'on remet l'essentiel au centre. 4 jours de dialogue, d'ateliers, de rires et de réflexions, du 28 au 31 août prochain, entre Fontaine-Daniel et le château de Fresnes, des femmes et des hommes feront la démonstration qu'un autre rythme est possible. Raphaël Denis est avec nous aujourd'hui, il vient nous raconter cette aventure collective qui ne cesse de réinventer le mot ensemble. Bonjour Raphaël et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Oui, merci. À vous, bonjour.
Ensuite, on fera place à la lecture de l'auditeur. Vous le savez, cette séquence, c'est un texte qu'un auditeur nous a envoyé. J'aime beaucoup. Ce sera la dernière voix partagée avant la pause de cet été. Et puis ensuite, en seconde partie d'émission, on vous emmène chez Martine, un petit bar lavallois qui existe depuis près de 50 ans. Aujourd'hui, on diffuse le premier épisode de notre reportage, l'occasion de pousser la porte et de découvrir l'histoire de ce lieu discret devenu un repère pour bien des habitués. Et puis pour conclure, on retrouvera la chronique de Donatien. Vous le savez, c'est notre chroniqueur qui préfère souvent nous emmener dans ses détours intérieurs plutôt que dans le grand bruit de l'actualité, des histoires, des impressions, des petites échappées qui font du bien et qui rappellent que la radio peut aussi être un endroit où l'on prend le temps de raconter et de se raconter autrement. Et puis avant de commencer, un petit salut à Maxime qui est à mes côtés aujourd'hui aux manettes des pauses musicales. Bonjour Maxime, comment est-ce que tu vas ?
Bonjour Margot, ça va super et toi ?
Eh bien très bien, puisque l'agité du local commence. Nous sommes mardi, bienvenue amis auditeuristes, je suis Margot. Vous êtes ici chez vous, chez nous. Tiens d'ailleurs, allons-y, c'est parti pour l'entretien du jour.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut, c'est l'agité du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio. Aujourd'hui, on prend le temps de parler d'un rendez-vous qui fait rimer convivialité et engagement. La fête de la Terre revient du 28 au 31 août 2025 entre Fontaine-Daniel et le château de Fresnes à Champéon. Pour nous en dire plus sur cette 21e édition, j'ai le plaisir, je vous le disais, d'avoir avec moi aujourd'hui Raphaël Denis, co-président de l'association Les Cabanons, qui organise cet événement devenu incontournable. Pour commencer, Raphaël, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter l'association et nous dire comment vous y êtes engagé, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette association ?
Alors oui, ça fait en effet 20 ans ou 21 ans que cette fête de la Terre existe. Donc on est une équipe de bénévoles, on est à peu près 10-12 à préparer pendant l'année. Et au moment de la fête, bien sûr, on est plus nombreux hein, parce qu'il faut être un peu partout. En fait, à l'origine, il y avait une fête de village à Fontaine-Daniel depuis très longtemps, une fête ouvrière, une fête liée à l'entreprise. Hein. C'était la population donc, de l'entreprise qui habitait à Fontaine-Daniel. Et il s'avère que j'ai grandi là, donc moi, même quand j'étais enfant, j'allais à cette fête. Où il y avait entre autres un bal le samedi soir, et, voilà, et la fête foraine, et le concours de pêche, etc. Et on a voulu, en effet, en 2004, à un moment où la fête du village était fatigué, où il fallait une relève avec une nouvelle équipe, eh bien, on a voulu en même temps mettre cet accent écologique, à la fois parce qu'une partie de nous avait comme ça une volonté et un regard à l'époque là, sur l'écologie, mais aussi parce que ce village a une histoire écologique qui n'est pas très connue. On peut en parler un peu si vous voulez.
Bien sûr.
Mais alors, on sait qu'à Fontaine-Daniel, il y a eu deux longues histoires. Il y a une première histoire avec des moines cisterciens. Ça a commencé au XIIIe siècle. Et aujourd'hui, les moines cisterciens sont connus, encore étudiés, comme étant un peu des précurseurs de l'écologie. Ils avaient un rapport à la nature habité, on pourrait dire, avec un regard, et aussi avec un art du vivre ensemble qui rejoint, en effet, aujourd'hui, ces termes donc, de convivialité. Enfin, voilà, donc ils ont été... Ils sont considérés comme des précurseurs sur plusieurs points. Et ensuite, il y a eu cette histoire textile avec Toile de Mayenne, qui est bien connue. Et donc, une période ouvrière, sociale, architecturale, c'est là que le village a été construit. Il n'existait pas avant. C'est donc un village jeune. Donc, il y a à la fois cette fibre des moines qui est là, toujours, en quelque sorte, invisible, mais qui est toujours là à Fontaine-Daniel. Par exemple, c'est eux qui ont mis au point l'étang et le rapport à la forêt. Donc, ça aussi, c'est très fort. Enfin, c'est très présent. Et puis, c'est une des complexités de ce village, c'est qu'un des dirigeants de l'entreprise important au XXe siècle s'est passionné dans les années 1940-50 pour la biodynamie. Et il va mettre en place une ferme, alors qu'il est dirigeant d'une entreprise textile, hein, où il y a 300 ouvriers et ouvrières. Il va mettre au point une ferme en biodynamie qui va être une des toutes premières fermes bio de la Mayenne dès les années 50. Ça, c'est plus ou moins connu, mais du coup, ça va attirer des gens. Il va y avoir un petit groupe de gens intéressés par la biodynamie, une association déjà qui va naître. Et du coup, voilà, c'est un village à la fois qui a pu être industriel et en même temps écologique.
On parle aujourd'hui de la 21e édition. Comment est-ce que cette fête de la Terre a évolué, j'imagine, depuis la toute première édition jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu des changements, peut-être des renouvellements, des questions qui se sont posées?
En tout cas, très vite et dès le début, on voulait que les conférences, bon, elles étaient importantes. On avait donc un programme de conférences assez développé et on voulait que ce ne soit pas que des écologistes qui viennent parler. Par exemple, très vite on s'est dit, il faut des philosophes, des écrivains, des artistes, des anthropologues, des scientifiques qui viennent parler de leur rapport à l'écologie. Et ça, c'était très intéressant. Et du coup, on a surpris aussi avec ça. Ça a continué depuis le début. Encore aujourd'hui, on peut le voir dans le programme, il y a des sociologues, il y a des géographes qui viennent, il y a des philosophes, etc. Voilà, ça c'est une des... ça a plutôt continué. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions importantes? Finalement, la structure vraiment, c'est les conférences, le marché bio, des activités artistiques. Il y a une dimension littéraire assez forte cette année aussi. On va d'ailleurs, je le dis en passant, avoir un... On a la chance, on va accueillir un jeune écrivain français. Alors, il n'est pas encore connu parce qu'il publie son premier livre à la rentrée littéraire, d'août. Et en fait, il va sans doute faire du bruit. C'est aux éditions du Tripode. Et on a réussi à le faire venir par relation. Il a 30 ans. C'est un poète, un écrivain. Donc on va avoir un moment sans doute très fort avec lui. Voilà, donc il y a aussi cette dimension littéraire. On est un peu... On fait aussi en sorte que ce soit une fête pour tous les âges.
Est-ce
donc il y a aussi des activités pour les familles, pour les enfants. Il y a du théâtre. Là, cette année, c'est avec le théâtre du Tiroir de Laval qui est bien connu. Jean-Luc Bansard, qui va d'ailleurs ouvrir, entre guillemets, le bal le jeudi soir au Château du Frêne, avec une pièce de théâtre de leur répertoire. D'ailleurs, qui a l'air très... une fable écologique très forte, apparemment, assez apocalyptique. Une pièce qu'ils ont déjà jouée ailleurs, mais qu'ils vont jouer donc au Château du Frêne. Donc on va ouvrir la fête d'ailleurs avec un lancement, avec un apéritif au Château du Frêne le jeudi soir, et ce sera poursuivi par cette pièce de théâtre, du Théâtre du Tiroir.
Qui sont ces gens qui s'investissent dans cette organisation? Vous avez dit que vous êtes un petit groupe, un noyau solide. Ça représente plusieurs espaces à organiser. Ce sont tous des bénévoles. Comment est-ce qu'on s'implique au quotidien pour organiser un événement comme celui-ci?
Oui, c'est en grande partie des habitants de Fontaine-Daniel qui ont cette fibre écologique. Enfin, j'ai même envie de dire... simplement existentiel aujourd'hui. Voilà, on se retrouve sur nos engagements, sur des valeurs. Bon, on pourrait dire qu'on a une fête plus engagée cette année parce qu'avec tout ce qui se passe en termes géopolitiques et on pourrait dire en deux mots avec tous ces renouveaux nationalistes, ça nous a apporté encore plus d'énergie pour notre programme et notre engagement. Là, on a une couverture et une thématique assez clairement engagées.
Est-ce qu'on peut peut-être faire un focus sur les thématiques abordées lors des conférences?
Alors, oui, c'est assez varié. C'est-à-dire, on n'a jamais un fil rouge pour toutes les conférences. Ce n'est pas comme un colloque. Mm-hmm. Nous, on est vraiment généraliste. Souvent, on nous demande, est-ce qu'il y a un thème à la Fête de la Terre? On dit, ben non, il n'y a pas un seul thème. C'est multi-thème. Alors...
On verra notamment une conférence qui s'appelle « Intelligence artificielle et anarchisme ». Il semblerait qu'il y ait plusieurs thématiques qui reviennent autour des nouvelles technologies, des évolutions.
Oui, c'est là où on veut vraiment être en phase avec le monde aujourd'hui et pas être seulement parce que ceux qui critiquent l'écologie souvent disent que les écolos sont des gentils rêveurs. Hein, ils espèrent un autre monde, mais qu'ils sont, ils n'ont pas assez les pieds sur terre. Ça, c'est un des grands classiques. Et là, nous, on montre bien que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça fait longtemps, mais on a souvent eu donc, des conférences sur le transhumanisme, par exemple. Dès qu'on a commencé à en parler, on voulait être sur ce terrain. Bon, là, en effet, vous avez raison de le dire, on a une conférence sur l'intelligence artificielle articulée avec ce mot anarchisme. Alors, on a eu la chance d'avoir le contact d'une grande philosophe française qui a écrit un grand nombre de livres. Qui sont pas faciles à lire d'ailleurs, c'est plutôt assez ardu, il faut plutôt avoir être un peu, enfin voilà, il faut être faut avoir envie quoi, il faut s'y
Catherine
mettre.
Catherine Malabou.
Voilà, elle est formidable, elle est d'ailleurs absolument charmante dans les relations, très agréable. Et alors elle nous avait dit d'abord qu'elle viendrait, finalement c'est très compliqué pour elle parce qu'elle vit entre Marseille et Londres, et du coup on a décidé pour la première fois d'avoir une conférence en visio, en direct. Elle sera à Marseille en direct. C'est le vendredi à 18h de mémoire. Et
17h30 même.
D'accord, merci. Et du coup, on va quand même pouvoir dialoguer avec elle en direct, mais pour une fois, ce sera avec un écran interposé.
Comment est-ce qu'on pense un événement comme celui-ci? Est-ce qu'il y a une évolution aussi dans la manière de sensibiliser, de s'adresser aux gens quand on aborde cette thématique-là? On entend souvent l'écologie, c'est pas sexy. Est-ce que du coup, est-ce qu'on se renouvelle? Est-ce qu'on cherche des nouvelles manières d'atteindre des nouvelles personnes et pas forcément peut-être rester dans un cercle de personnes déjà conquises par la thématique?
Oui, c'est un sujet important et nous, on a eu la chance d'être une fête ancrée dans un lieu qui a une longue histoire. Et du coup, c'est une fête un peu hybride. C'est-à-dire, c'est une fête qui est à la fois la fête d'un lieu, qui a un fort patrimoine, et une fête à thème. Du coup, depuis le début, il y a des gens qui viennent parce que c'est une fête écologique, et il y a des gens qui viennent parce que c'est la fête d'un village original. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour les visites guidées de Fontaine Daniel, ou les visites guidées de l'abbaye, ou les visites guidées même du tissage qu'il y avait à une époque, et qui ont découvert l'écologie après, en se promenant dans le village, en voyant le marché bio, en voyant le programme, en disant « Ah tiens, ça a l'air intéressant cette conférence », etc. Donc on a la chance en fait de ne pas être seulement un rendez-vous écologique, mais d'être aussi un rendez-vous dans un lieu particulier.
Si on parle justement de ce lieu, de cet espace qui accueille la Fête de la Terre, il y a évidemment Fontaine Daniel, mais il y a aussi le Château de Fresnes.
Alors oui, c'est une nouveauté. C'est la première fois en 21 ans qu'on fait une alliance avec un autre lieu. On a rencontré les deux personnes qui ont repris ce château il y a 3 ans et qui ont une fibre écologique très développée. Ils vivent entre Amsterdam et ce lieu sur la commune de Champéon, près de Lasset. Et on s'est très bien entendu tout de suite, ils aiment beaucoup Fontaine Daniel, et nous on aime beaucoup leur esprit, et du coup on s'est dit, si on faisait ensemble. Alors c'est un peu compliqué parce que la Fête de la Terre c'est un programme qui est très intégré à Fontaine Daniel, du coup c'est plutôt au début et à la fin qu'il y a des choses au Château du Fresnes. Mais voilà, on est très heureux de faire alliance cette année, et de montrer aussi que voilà, c'est des acteurs du Nord Mayenne, on pourrait dire, qui s'associent. Pour ce genre d'événement.
On l'a dit au début de cet entretien, Raphaël, vous êtes coprésident de l'association Les Cabanons. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association?
Alors oui, on est 5 coprésidents et coprésidentes. Ça fait 10 ans qu'on voulait une autre forme de présidence, un peu plus tournante et un peu plus collégiale. Voilà. Donc on est 5 coprésidents et puis derrière, il y a des membres ou des adhérents ou des actifs qui nous... Voilà. Donc comme on disait, on est à peu près une douzaine. Ben, on a mis les prénoms là dans le... On n'a pas mis les noms, c'est un peu long. On a mis tous les prénoms dans le programme. en version papier et qu'on trouve aussi sur Internet, hein, vous le direz sans doute, mais on a mis le programme en ligne. Mais en fait, c'est un peu particulier, donc on est bénévole. Ça veut aussi dire qu'il y a une grande fluidité, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui restent un an, deux ans aussi, parce qu'ils... on a des personnes, par exemple, qui sont venues habiter à Fontaine-Daniel pour deux ou trois ans, qui aimaient la fête de la Terre, qui nous ont aidés pendant deux ou trois ans, et qui sont repartis. Donc, il y a des nouvelles têtes assez souvent, il y en a qui partent. C'est une association libre.
Ça fait aussi la richesse de ce qui est proposé, de la manière dont est pensée.
Oui, oui. C'est vrai que c'est vraiment une équipe qui bouge beaucoup. Bon, il y a quelques-uns qui sont là depuis le début, mais il y a quand même beaucoup de renouveau. Comme ce lieu, et on ne le sait pas trop, ce village, a beaucoup de nouveaux habitants. On croit souvent en Mayenne que ce village, c'est les anciens de l'entreprise qui sont toujours là. Mais en fait, on a calculé qu'il y a à peu près 70% des gens qui habitent aujourd'hui dans ce village qui n'étaient pas là il y a 15 ans.
Raphaël, je le rappelle, la fête de la Terre aura lieu du 28 au 31 août entre Fontaine-Daniel et le château de Fresnes. Vous l'avez dit, l'ensemble de la programmation est disponible en version papier, mais aussi en version numérique sur Internet. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Là, je pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, qui ne s'est jamais rendu sur place, qui se dit « j'ai pas tellement la fibre écologique, en tout cas je sais pas encore comment me positionner, j'ai pas un avis ancré, une position très forte sur la question, et en même temps pourquoi pas y aller ?»
Alors, évidemment, je ne serai pas objectif, pas assez, parce que je baigne dedans depuis 20 ans. Ceci dit, ce qu'on nous dit souvent, et ce que des gens nous ont dit, c'est que ce lieu historique, intact avec son architecture, et ce thème écologique, ça fait un effet. Ça produit un espèce d'accord. Et les gens nous disent parfois qu'il y a comme un effet un peu... une magie du moment. Entre cet accord, je répète, entre un lieu et cette écologie, et du coup, il faut y être, il faut le vivre pour un peu le comprendre. Il faut venir une fois, je dirais idéalement le samedi après-midi ou le dimanche, ou le dimanche, c'est là qu'il y a plus de monde et c'est là qu'on peut comprendre ce moment très particulier.
Pour se plonger au cœur de la magie que vous nous proposez, ça aura donc lieu à Fontaine-Daniel et au château du Fresnes du 28 au 31 août pour la 21e édition.
Oui, juste encore une chose que je peux ajouter, c'est que bon, là on en parle aujourd'hui, on a fait des documents, on a un site internet, mais en fait c'est un rendez-vous qui est connu maintenant et on n'a pratiquement plus besoin de communiquer. On sait qu'on fait le document, on le diffuse, parce qu'on sait que si la météo est avec nous, il y aura du monde. Donc on est assez tranquille là-dessus. Donc simplement on prie pour que les nuages soient gentils pendant ces jours-là.
Et le soleil un peu plus calme peut-être que ce qu'on connaît ces derniers jours.
Oui, pas trop chaud non plus.
En tout cas, merci beaucoup Raphaël d'avoir passé ce moment avec nous. Dans quelques instants, on se rend dans un lieu bien connu des Lavallois. Il s'agit du bar chez Martine, un lieu chargé d'histoire lui aussi. Mais avant ça, Maxime, toi tu nous as choisi un titre, une pause musicale.
Et oui, on va écouter Survivor de Parg. Shades on, jump like I'm in my zone. I'm sick of the news, I'm sick of the views, I'm sick of the lies they talk. Come on and shine the light, come on and shine on me. Yes, you can see, I don't believe anything they told me. Letting me down, lifting me up, keeping me slow. I don't give up, it's tearing me apart, I'm alive. Swallow the cup, I tap off a rock. Climbing these heights, man, I can't stop at all. I'm standing tall. I'm a survivor. Stay alive, do or die, my prime, I'm a fighter. I'm a survivor, won't be tied up. Break from the pain, take your place, I remind ya. I'm a survivor.
tout de suite cap sur Laval pour un reportage en deux volets. C'est une rencontre et un échange auquel je pensais depuis des mois. Il était temps, en arrivant à la fin de cette saison, de provoquer la rencontre. Oui, j'ai pris le temps de m'asseoir quelque temps autour d'un comptoir et de tendre le micro à Martine, parce qu'il y a des lieux qui traversent les années sans changer de visage et qui finissent par ressembler à ceux qui les habitent. Écoutez. On passe parfois devant sans prêter attention, comme si ce lieu avait toujours été là. Une façade discrète, un prénom en guise d'enseigne et 50 ans d'histoire derrière la porte. Chez Martine, c'est un bar qui fait partie du paysage, un refuge simple où l'on vient trouver un peu de chaleur, un peu de constance. Aujourd'hui, Martine s'apprête à refermer ce chapitre. Avant de partir, elle nous a offert le temps d'un souvenir. Martine, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez ?
Madame Volto, bar chez Martine, arrivée là le 1er février 76.
Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier jour ici dans ce bar ?
Oui, oui, 1er février, tombait de la neige, c'était assez sportif. Voilà, c'était vraiment un projet que j'avais dans la tête, voilà, très jeune. C'était une reprise après une personne âgée qui avait dû être là 8 ans. Mais bon, j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc on ne réfléchissait pas trop à l'époque.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement cet endroit-là ? Est-ce qu'il vous a tapé dans l'œil ?
On avait visité beaucoup d'affaires, et ouais, c'est celle qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis bon, voilà, pourtant à l'époque, le quartier, c'était pas tout à fait ça, mais c'était plutôt triste, hein. C'était vieillot, c'était quand même centre-ville, il y avait déjà le marché était là, enfin voilà, il y avait quand même du potentiel, il y avait beaucoup de bureaux aussi, beaucoup de gens qui travaillaient. Aujourd'hui c'est plus le vrai, mais à l'époque oui.
Et alors votre bar s'appelle Chez Martine, comment est venu ce nom ? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il y a une histoire derrière ?
C'est venu tout à fait naturellement, pendant des années il n'y avait pas de nom en fait, et puis tout le monde m'appelait Chez Martine, donc je dis un jour, allez, il faut le mettre. Voilà. C'est plutôt le client qui a décidé en fait.
Quand on pousse la porte de chez Martine, on a l'impression d'entrer dans un endroit où rien n'a vraiment changé depuis des années. C'est peut-être justement pour ça qu'on s'y sent bien. Le comptoir marqué par la vie garde un peu la mémoire des conversations partagées. C'est un petit bar de quartier qui ne ressemble pas aux endroits où tout est pensé pour séduire. Ici, c'est plus brut, plus simple, mais c'est justement ça qui est beau, rien n'est forcé. Martine, est-ce que vous pouvez me décrire le bar à ses débuts ? À quoi est-ce qu'il ressemblait ?
Ah oui, alors le bar était de ce côté-ci, à l'opposé. Bon, c'était une vieille vitrine en bois, voilà, typique de l'époque, hein, comme il reste un petit peu, à la crêperie. Voilà, c'était ça. Puis bon, à l'intérieur, c'était un peu tristounet. on a mis 3 ans avant de tout refaire de fond en comble, ouais. Y compris l'appartement et tout. C'était 3 ans de travaux sans discontinuer.
Vous l'avez fait vous-même ?
Mon mari, oui.
Ouais.
Ouais, ouais,
okay. Ouais. Et alors, vous m'avez dit avoir ouvert lorsque vous aviez 18 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, on est insouciant et tout roule ? Ou est-ce qu'il y a quand même des difficultés au début ?
Non, à l'époque, on était complètement insouciant. Puis c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. On ne se posait jamais de questions. Hein. Jamais. Il suffisait d'ouvrir, de se mettre au travail et ça fonctionnait, quoi. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Hein. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Mais à l'époque, c'était tellement facile. Oui, c'était la belle vie, c'est vrai. Mais c'est pour tout le monde pareil aujourd'hui. Hein. Je pense que voilà.
Martine, vous allez me dire si je me trompe, mais pour moi, le bar, c'est le lieu où se croisent un peu toutes les histoires.
C'est énorme, 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 énorme. On connaît toutes les histoires des gens, leur misère, leur petit.
Vous êtes un peu comme une psy, vous êtes entrée dans la vie intime de beaucoup de gens, j'imagine.
Oui, ouais, ouais, c'est clair. Oui, il y a des gens, de toute façon, ils viennent, je les vois que quand ils ont des soucis. Hein. Ah, oui, ils m'écoutent, hein, voilà. Et puis, bon. Surtout que les gens vivent de plus en plus seuls, isolés. Ça devient quand même très difficile. Hein. Depuis le Covid, là, les gens ont changé leurs habitudes, leur façon de fonctionner, façon de réfléchir aussi. C'est beaucoup d'interrogations. C'est pas très positif tout ça. Il y a beaucoup moins de discussions qu'avant. Ouais. Après, pas pour tout le monde, hein, mais il y a une catégorie de gens, ouais, ils viennent là, ils prennent un café, ils passent leur temps sur leur portable, voilà.
Martine, est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous avez toujours voulu préserver, ou vous vous êtes toujours dit, tiens, ça bougera pas?
Ambiance familiale, hein, voilà, ils viennent, ils se retrouvent entre eux, les clients les plus anciens, hein, ils savent qu'ils vont toujours trouver quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils vont pouvoir papoter.
Avec vos mots, comment vous me décririez le bar chez Martine? Qu'est-ce que c'est comme endroit? C'est une question piège, ça, peut-être.
Un peu. Non, c'est un lieu de rencontre, comment on pourrait dire ça d'autre?
C'est un peu chez vous?
Oui, et puis ça, c'est un peu chez eux aussi. Ils sont chez eux, hein. Voilà, ils sont un peu comme à la maison. Hein.
C'est chez vous et c'est chez eux?
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que vous vous souvenez de vos tout premiers clients? Et par hasard, est-ce qu'ils fréquentent toujours chez Martine aujourd'hui?
Le tout premier client, non. Malheureusement. Ah bah si, c'était mon voisin d'à côté, forcément. Qui a décidé depuis bien longtemps... Non, moi j'ai des clients, ça fait 35, 40 ans, quand même. C'est pas mal.
Dans ce bar, il y a eu des rires, des confidences et des habitudes qui se sont installées sans qu'on y pense. Peut-être que la plus belle trace qu'on laisse derrière soi, ce n'est pas le lieu qu'on a tenu, mais la façon dont on l'a habité. Chez Martine restera comme un endroit un peu hors du temps. Demain, on se retrouvera pour la suite de cette histoire et pour entendre Martine raconter ce moment en particulier où il faut transmettre ce qu'on a construit. Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Nous voilà arrivés au moment d'une séquence que j'aime beaucoup, vous aussi. Oui, vous le savez, c'est la lecture de l'auditeur.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai les quand même, ça c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, mais c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
L'agité du local sur l'autre radio. On termine cette émission avec notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique de Donatien, qui, comme toujours, nous propose son regard singulier, ses divagations poétiques.
Même pas capable de changer une ampoule, se plaignait tante Yvonne quand elle parlait de son mari. Tante Yvonne n'avait pas la chance d'avoir un mari bricoleur, alors montée sur l'escabeau et se retenant au garde-corps, tante Yvonne changeait elle-même les ampoules. Tante Yvonne était devenue une experte en culot. Culot à vis, petit ou grand diamètre, culot à baïonnette, 40 watts, 60 watts, voire 75 watts, et même plus si affinité. Dès que l'orage ou les hausses de tension faisaient griller le filament, on pouvait compter sur les lumières de tante Yvonne pour nous éclairer, mais ça, c'était avant. Avant que vinssent remplacer nos bonnes vieilles ampoules, les éclairages halogènes ou LED, à savoir les diodes électroluminescentes, et alors là, les lumières de tante Yvonne, malheureusement, se sont éteintes. Pour compatir, il n'y a qu'à se promener dans les allées chez Brico Casto, où il y a tout ce qu'il faut. Pauvre client, prévoyez une bonne demi-journée pour choisir le modèle idoine qui va remplacer dans les WC la vieille ampoule à incandescence. Ampoules halogènes, fluo compactes, LED ou spécifiques, les spots, les plafonniers, les lustres, les lampadaires ou les appliques, les B15 ou B22, E14 ou E27, on croirait une bataille navale. Un conseil au piou-piou, gardez le ticket de caisse. Même après avoir flashé sur le bon modèle, il vous faudra tergiverser sur la puissance en watts ou en lumens, établir des correspondances et cela sans l'éclairage précieux de Tante Yvonne. Mais on ne rigole plus de Tante Yvonne et on ne se moque plus de son mari incapable, rappelez-vous, de changer une simple ampoule à baïonnette. Donatien n'est pas plus futé qu'un autre, et devant le rayon des luminaires, Donatien se masque bien involontairement le visage de la même expression stupide que celle de la poule ayant trouvé un couteau. Dans l'allée du magasin, Donatien repense à ce pauvre Claude François dont il garde le souvenir d'un chanteur survolté. L'interprète de la lumière du phare d'Alexandrie s'est électrocuté dans sa salle de bain, peut-être bien en changeant une ampoule. Aujourd'hui, il aurait 86 ans. Et Donatien l'imagine assez mal danser sur scène avec des Claudettes septuagénaires sautillant sur le rythme de Belinda. Certaines vedettes de la variété des 70s n'étaient pas faites pour vieillir. Dalida, Michel Balavoine ou Michel Berger, Joe Dassin, Mike Brandt ou Joël du groupe Il était une fois. D'autres, qui ont survécu aujourd'hui, poussent encore la chansonnette pour notre plus grand plaisir. C'est ainsi qu'au rayon des piles et des ampoules chez Castorama, Donatien reconnaît, à la radio, la voix de Dave chanter Vanina.
Ah, ta 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 ta.
Et voilà, il vieillit pas en plus, Dave.
C'était Vanina de Dave. Merci beaucoup, Donatien, l'JT du local. Ben oui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Raphaël Denis d'avoir été avec nous. Merci à Martine pour son accueil. Et puis merci à toi, Maxime. L'JT rend l'antenne, mais la programmation de l'autre radio ne s'arrête pas là.
Et oui, Margot, la soirée commence avec Eldorado à 19h. C'est une émission consacrée aux musiques folk et rock.
Après ça, ça reste musical.
Et oui, toujours, la soirée continue avec du rap à 21h avec Frères de Chaussures.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'JT du local. Nous serons avec Laure Berthe, directrice artistique du Festival de Sablé, mais aussi la voix d'une des pièces Bach à Percolèse, une pièce qui clôturera la programmation du festival. Elle sera avec nous pour nous en parler. D'ici là, gardez un peu de place pour les derniers éclats de cette saison sur nos ondes. On n'a pas encore tout dit ni tout partagé. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.